Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h. Philippe David.
Tous les sports, tant professionnels qu'amateurs, sont à l'arrêt avec comme mesure emblématique le report de l'Euro 2020 de football et des JO de Tokyo à 2021, le report de Roland-Garros en septembre et l'annulation pure et simple de Wimbledon. En France, la L1 et le top 14 sont à l'arrêt, tandis qu'en Belgique, la Ligue Jupiler, la L1 belge, devrait être arrêtée à la demande de la Ligue professionnelle, l'équivalent de notre LNF. Si la méthode belge était suivie, la Liga espagnole subirait une perte entre 700 millions et 1 milliard, une perte de 3 à 400 millions d'euros pour la Ligue 1. Une Ligue 1 qui ne recevra pas demain 110 millions de Canal+ et 42 millions de Bein au titre des droits télé. Bref, le sport professionnel est en grand danger et on va se demander si certains clubs ou ligues ou compétitions ne risquent pas la faillite. Nous sommes en compagnie de Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Vincent Chaudel, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio, on va commencer par l'actu chaude, c'est 152 millions d'euros, ça fait 1 milliard de francs pour ceux qui comptent encore en France, c'est colossal, qui ne vont pas tomber dans l'escarcelle de la LFP, la Ligue de football professionnelle demain. Est-ce que ça met les clubs de L1 en danger et la L1 même tout court en danger?
Dans un premier temps, ça met la trésorerie des clubs de L1 en grand danger, évidemment. Vous l'avez précisé dans la présentation, aujourd'hui on a joué 75% des championnats. Et donc, il est logique que les diffuseurs, qui ne seront pas nécessairement les mêmes pour la saison prochaine, face à l'incertitude de finir ou pas cette saison, disent bah, « nous, tant qu'on n'est pas sûr qu'on aura les 25% restants, on ne paye pas ». Donc ça, on peut le comprendre, sauf que pour les clubs, tout le budget a été enclenché sur une recette base 100 et pas sur une base 75. Donc, ils ont les dépenses liées à la base 100. Ils ont les salaires. Mais ça, je dirais quelque part que c'est comme toutes les entreprises aujourd'hui qui sont à l'arrêt. Il y a les salaires. Alors, certaines ont opté pour le chômage partiel. Oui, mais pour le coup, c'est l'économie du football est particulière. C'est qu'il y a le salarié de football de base, entre guillemets. C'est pas tout à fait le salaire du salarié de base de n'importe quel...
De l'automobile ou de l'expertise comptable, comme on était avec un expert comptable il y a quelques secondes, et avec exactement. On parlait de l'industrie automobile il y a quelques minutes.
Donc le plafonnement du chômage partiel avec le multiple du SMIC, c'est bien, mais ça n'enlève pas le problème, le gros problème de trésorerie des clubs. Donc pour l'instant... Il y a un risque de faillite, mais c'est un risque parce que au moment où on se parle, il y a un problème de trésorerie et le risque va dépendre de la reprise, de la sortie du confinement. Parce que si jamais, croisons les doigts, on sort fin avril, ça veut dire que le championnat va certainement reprendre mi-mai. Parce que le temps que les joueurs reprennent l'entraînement, refassent de la condition physique, il y a un temps. C'est pas parce qu'on sort que le lendemain on peut faire un match de championnat.
Donc, c'est sûr, on a un mois de prépa avant de recommencer la Ligue 1 d'habitude. Hein.
Oui, là je pense qu'on
là, ils ont joué, ils vont
là, réduire, réduire cette période-là, mais il y aura une période de réathlétisation, on peut pas jouer immédiatement. Donc il va y avoir cette période-là, et après on va rejouer. Si c'est le cas, on n'aura eu qu'un problème de trésorerie entre guillemets, parce que la trêve de juin-juillet habituellement, elle s'appellera mi-mars, mi-mai, et ça sera juste un décalage.
Justement. On va passer du foot au rugby, Vincent Chaudel. Mmh. En rugby, les choses prennent forme avec une baisse des salaires pour la saison prochaine. Est-ce que c'est inéluctable dans tous les sports?
Alors, les salaires ont grandement évolué sur les 20 dernières années au rythme de l'évolution des recettes du sport professionnel, essentiellement liées aux droits télé. Alors, je pense qu'effectivement, il va y avoir un avant et un après coronavirus, dans le sens où les recettes stagnent ou réduisent, ça sera très difficile pour les acteurs du sport de continuer à assumer des salaires, même pas en progression, mais au même niveau. Alors, la vraie question, c'est de savoir si on va toucher la billetterie. Je pense que la billetterie ne sera pas trop impactée parce que dès qu'on va pouvoir ressortir, on va vouloir échanger, partager, s'amuser, avoir du plaisir. C'est ce que propose le sport et les matchs de sport. Donc ça, je pense que les Français vont retrouver le chemin du stade. Je suis pas très inquiet là-dessus. On verra si les faits me donnent raison ou pas. Les droits télé. Alors, le problème, c'est que pour les médias aussi, le sport va continuer à tenir sa promesse, à rassembler des gens, à partager de l'émotion. Si demain, on proposait Juventus Lyon à la télé, je pense qu'on serait pas loin d'un record d'audience, tellement les gens ont envie de voir...
Sont sevrés.
Exactement. Donc ça, l'intérêt des téléspectateurs ne va pas diminuer. En revanche, la période que l'on vit actuellement, c'est une période très délicate pour les médias. On a dit Canal+ et Beansport ne veulent pas payer. Mais Canal+ et Beansport ont fait une promesse aussi à leurs abonnés. Donc il y a de fortes chances aussi qu'il y ait des désabonnements actuellement. Parce que quand vous abonnez pour voir du sport et que vous n'en avez pas, la promesse n'est pas tenue. Donc si vous vous désabonnez, le pouvoir d'achat de ces médias-là va diminuer. Donc les droits télé à l'avenir peuvent stagner, voire diminuer. Sauf arriver de nouveaux acteurs comme les GAFA, les Google, Amazon et autres. Donc ça,
d'accord.
Les droits peuvent tenir, voire progresser, mais peut-être pas avec les mêmes acteurs qu'aujourd'hui. Par contre, là où il y a une vraie inquiétude, juste Philippe pour terminer, là où il y a une vraie inquiétude, et quand on parle du rugby, c'est sur la partie sponsoring et la relation aux entreprises. Le rugby, contrairement aux télé, est moins télédépendant, mais il est plus entreprise sponsor dépendant. Or là, les sponsors, ce sont les entreprises comme toutes celles qui annoncent, qui font des publicités sur Sud Radio et autres. Ces entreprises-là, elles sont en difficulté et il y a de fortes chances qu'elles soient amenées à couper dans des budgets. Donc là, moi, je suis plus inquiet sur le volet sponsoring.
Alors, il y a d'autres professionnels dont on parle moins, la Ligue 2 et la Pro D2 en rugby. Est-ce que ce n'est pas là que le problème va être? Parce que ce sont souvent des championnats, en particulier la Ligue 2, qui vivent sur la Ligue 1 quelque part.
Alors, la chance, dans ce que je viens d'évoquer, la Ligue 2, elle est très télédépendante
absolument.
Par la solidarité de la Ligue 1. Donc, l'impact du sponsoring sur les clubs de Ligue 2 va être faible. Même si les sponsors sont moins au rendez-vous, ça sera moins important que pour la Ligue 1. En revanche, tant que la Ligue 1 fonctionne et tient sa promesse pour les diffuseurs et que les diffuseurs payent, la Ligue 2 vit bien. Donc là-dessus, elle a un amortisseur. Sur le rugby, c'est plus compliqué, puisque déjà le top 14 n'est pas télédépendant, alors la Pro D2 encore moins.
C'est que 20% donc, je crois, des revenus du top 14, les droits télé.
Exactement. Et donc c'est là où il y a plus pour moi d'inquiétude sur l'économie du rugby, parce que la force du rugby, justement, jusqu'ici, c'était la relation aux entreprises. Mais si les entreprises vont mal... Et j'ai bien peur que ce confinement fasse mal à beaucoup d'entreprises. Là, il peut y avoir un point de faiblesse.
Alors justement, quand on voit les compétitions internationales, on pense à l'Euro de foot ou aux Jeux Olympiques, c'est juste un décalage, pas de risque de faillite?
De faillite pour qui? Pour l'UEFA et pour le CIO?
Absolument.
Non, parce que en fait, ils se sont organisés pour décaler. L'Euro 2021 va exister. Le problème, c'est pour l'organisateur en général, c'est le pays. Là, on est dans un euro un peu particulier.
Dans effectivement,
il est dans 12 pays et donc le poids, exceptionnellement, est plus porté par l'UEFA que par un pays hôte cette fois-ci.
Pour ça.
Oui, mais entre guillemets, ils l'ont chiffré à 300 millions d'euros l'impact du décalage. C'est quoi l'impact du décalage? C'est faire en sorte que la ville qui devait accueillir la compétition l'accueille pas cette année, mais l'année prochaine.
Donc c'est juste un décalage.
Oui, alors c'est quand même 300 millions d'euros quand même. Mais 300 millions d'euros à partager avec 12 pays, avec 12 fédérations, 12 villes.
C'est supportable.
12 ligues. Ouais, c'est supportable. Le problème, c'est plutôt pour les JO et pour le Japon. Le Japon a investi 11 milliards 5 pour accueillir les JO. Et ce décalage va lui coûter, les derniers chiffres, c'est autour de 2,5 milliards d'euros quand même. Là, on est sur des chiffres qui pèsent beaucoup plus lourd. Et évidemment que c'est un impact important. Mais il y a d'autres impacts. C'est-à-dire que quand on regarde, nous, on a Paris 2024. Les sponsors de Paris 2024 ont signé pour pouvoir utiliser les anneaux pendant 4 ans, juste après les JO de Tokyo. Oui. Bah là, ils vont pouvoir les utiliser 3 ans.
Vraie question. On en reparlera sur Sud Radio. Merci beaucoup à vous, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Vous êtes bien sur Sud Radio, 9h25.
Bon week-end.
Bon, Merci à vous, on retrouve, ensoleillé d'ailleurs, on retrouve comme tous les samedis dans quelques instants Marc Ezrati et sa bande pour On parle Imo.